Alors bonjour Catherine.
Bonjour.
Tout d'abord, qu'est-ce que la revue Relations pour nos auditeurs et auditrices qui ne la connaîtraient pas?
Oui, alors Relations, c'est une des plus anciennes revues au Québec. Elle a été fondée en 1941. Elle a traversé toutes les décennies. C'est les jésuites qui l'ont fondée et qui la soutiennent toujours. C'est une revue d'analyse sociale de gauche qui représente en fait une diversité quand même de courants de la gauche. C'est beaucoup des chercheurs, des professeurs, des penseurs, des militants. Ça va des anarchistes aux syndicalistes, en passant par toutes sortes des altermondialistes aussi. Alors, on est assez fiers de rassembler une diversité de points de vue de gauche dans une revue qui fait de l'analyse sociale. C'est une expression qu'on n'entend pas si souvent au Québec, ça, hein, mais ça veut dire, hein, c'est pas juste une revue d'opinion, si on veut. C'est une revue où vraiment on cherche des auteurs qui ont une capacité, une expertise pour analyser les situations, les grands enjeux de société.
Puis, est-ce que vous vous définissez comme faisant partie des médias indépendants par opposition aux médias corporatifs? Comment vous voyez votre rôle social?
Oui, ah oui, certainement. Pour nous, Relations, c'est une revue indépendante dans le sens aussi où on ne dépend pas du tout de la publicité. On n'appartient à aucun grand groupe de presse ou quoi que ce soit, là. Donc, on a vraiment une belle indépendance et on s'inscrit dans le mouvement social québécois depuis plusieurs années. Et je dirais, depuis les années 80, certainement, c'est une des revues qui fait un travail important sur la critique du système économique et politique dans lequel on vit. Elle est vraiment dans une tendance clairement à gauche, là, depuis 30 ans.
Donc, c'est ça, depuis 30 ans, puisqu'effectivement, le numéro dont on parle aujourd'hui, c'est quand même le numéro 736.
Oui, on va fêter nos 70 ans en 2011. C'est quand même, c'est vraiment remarquable au Québec, là, et encore pas assez connu, malheureusement.
Quand même, effectivement. Alors donc, pour aller plus sur ce numéro qui a attiré notre attention parce qu'il est dédié aux 10 ans après Seattle, vous avez signé l'introduction à ce numéro sur ce sujet-là. Puis, donc, pour introduire ici le sujet, vous dites dedans que le cri de Seattle résonne toujours, que le fait que les élites économiques et politiques du capitalisme globalisé n'entendent toujours pas. Alors, c'est quoi ce cri-là? Mm-hmm. Puis, comment est-ce qu'il résonne, peut-être en rappelant un petit peu les faits de Seattle puis leur sens?
Oui. Vite dit, le cri, c'était un des grands cris contre ce qu'on appelle en gros la marchandisation du monde. Le fait que le domaine de la finance et du commerce ont pris une emprise complètement démesurée sur la société. Tout est marchandisé. Et à Seattle, c'est un des grands moments où ce qu'on appelle un moment fondateur du mouvement altermondialiste, même s'il y avait eu bien des étapes avant, et notamment au Chiapas, au Mexique. Mais là, ça se passait au cœur même du système économique aux États-Unis. Des gens du Sud et du Nord se sont rassemblés pour pousser justement un grand cri contre un système qui oppresse toutes les populations du monde et qui génère beaucoup d'inégalités. Ce système-là, dans le cas de Seattle, l'institution qui incarne ça, c'est l'Organisation mondiale du commerce, c'est l'OMC. Donc ça, c'est un des instruments de l'oppression de la finance et du commerce sur le monde.
Comment est-ce qu'il résonne encore ce cri justement dont tu parles?
Oui, c'est ça. Donc c'est pas une résistance à une oppression qui a commencé à Seattle, mais Seattle est un moment fort où, à cause de la grande médiatisation que ces manifestations-là ont eue et du fait qu'elles ont réussi à bloquer le sommet officiel qui avait lieu là, ça a été très 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 médiatisé et ça a mis cette cause-là sur la carte comme elle l'avait jamais été avant. Et depuis, ça n'a jamais cessé, à mon sens. Ça a pu baisser en intensité ou prendre différentes formes, mais depuis, à chaque sommet officiel, que ce soit le G20, le FMI, l'OMC, tous ces grands rassemblements-là ont toujours de la contestation dans la rue et c'est hyper important qu'il y en ait, qu'elle soit grande ou qu'elle soit petite, mais elle a jamais cessé. Et on va le voir encore à la fin du mois quand l'OMC va se rencontrer à Genève pour sa ministérielle qui, comme par hasard, tombe aux mêmes dates que Seattle il y a 10 ans. Ben, il va encore y avoir de la contestation et c'est ça. L'autre chose qui s'est passée aussi quand dans la revue on a voulu dire que ça n'a jamais cessé, c'est aussi l'autre forme que la contestation a prise par les forums sociaux. Où là, on n'est pas dans des expressions de contestation seulement, mais on est dans l'expression quand même d'une résistance à un système et de propositions multiples contre ce système-là. Fait que pour moi, c'est un peu les deux. Le cri résonne parce qu'il y a toujours des mobilisations importantes. Et aussi, parallèlement, il y a des processus comme les forums sociaux.
Mais justement, en fait, en parlant de baisse de mobilisation, vous admettez aussi, comme beaucoup de militants et militantes ont dû le faire, que, donc, en vous citant, là, cette pratique militante a toutefois perdu du terrain, surtout au Nord. Je dirais spécialement en Amérique du Nord, par rapport en Europe, il y a encore beaucoup de poursuivre les sommets, etc. Ici, il y en a quasiment pas. Il y avait des sommets des négociations secrètes du traité sur la prospérité et la sécurité. Je me rappelle être moi-même allée à des manifestations à Ottawa. Est-ce qu'on a loué un autobus? On était 20 dedans. On s'est ramassé 15 dans le froid à manifester contre Bush, Harper puis Calderon. Je vous avoue que c'est pas un grand moment de motivation. Donc, pourquoi, comment, est-ce que ça continue, mais ça a quand même vraiment baissé?
Ouais. Oui, on a tous des souvenirs de manifs décevants. comment expliquer ça? Pour moi, il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a un système qui est très fort et qui mobilise les personnes engagées sur tellement de fronts qu'il y a quand même un essoufflement réel. Je pense qu'il y a de ça là-dedans. C'est difficile de rester engagé, de rester dans une lutte constante sur des décennies finalement, parce que ce système-là, c'est pas récent là qui produit tous ces effets. Fait que je trouve qu'il y a un essoufflement. Deuxième facteur, c'est la répression, je crois, qui est à mettre dans l'équation. Beaucoup depuis septembre 2001, mais pas seulement. C'est sûr que il y a une criminalisation des mouvements sociaux, des mouvements militants. Il y a beaucoup, à Montréal, on a vu des pratiques d'arrestation massive de manifestants qui avaient strictement rien fait ou qui avaient même pas fait un pas encore. Et les gens qui subissent ça, c'est pas très drôle quand même. Là, ça dure des mois de temps de procédure avant que finalement, on admette qu'on a exagéré, que les forces policières ont exagéré. Donc, tous les phénomènes de répression, pour moi, veut pas, ont un effet aussi démobilisant. C'est pas facile après de travailler auprès de gens qui ont un bon niveau de conscience politique, de les amener à manifester ou à passer leur samedi comme toi et moi, on doit le faire plus souvent que la moyenne, là. Mais de venir dans ces occasions-là, de vivre le contexte répressif, c'est sûr que ça aide pas. Par contre, dans l'exemple quand tu dis la pratique en question dont je parlais dans ce texte-là, c'était plus spécifiquement pas l'action militante au sens large dans toutes ses formes, mais c'était l'action directe non violente, qui pour moi est ce qui a fait Seattle, dans mon analyse à moi, c'est d'abord un succès de l'action directe non violente, c'est les blocages, c'est les actions de désobéissance civile, c'est ça qui a fait Seattle. Plus le fait qu'il y a eu une grosse manif syndicale ou qu'il y a eu un teach-in ou qu'il y a eu toutes les autres formes de mobilisation. Mais l'action directe a été capitale. Et après, elle a fait des petits. Ouais, c'est sûr qu'elle n'a pas été inventée là non plus, mais elle a fait des petits par la suite dans l'intermondialisme jusqu'ici au sommet de Québec 2001 et dans l'opération Salami, beaucoup, qui faisait de la désobéissance civile puis de l'action directe. Donc ça m'intéressait beaucoup de qu'on se rende compte qu'au Nord, c'est une pratique justement qui a de la misère à prendre un essor, qui s'est pas développée depuis. C'est difficile parce que c'est justement, quand on fait de l'action directe, on s'expose encore plus à la répression. Fait que c'est comme évident que ça demeure des formes marginales dans nos pays. Et ce qui explique aussi notre difficulté au Nord, c'est notre confort. Le confort et l'indifférence. Pour moi, ça, c'est très simple. Là, on vit dans une société qui est au cœur du système. Là, le Canada est un des pays les plus à droite en ce moment sur la planète. On a des machines médiatiques qui nous véhiculent ces idées-là à grand renfort dans tous les grands médias. Donc, c'est pas facile. La population se sent pas, même s'il y a une crise ou des choses comme ça, la population vit quand même dans un confort relatif qui n'aide pas du tout à la conscientiser, à la politiser, à lui faire se rendre compte que l'intérêt public puis son intérêt réel des gens souvent est bafoué puis ils s'en rendent même pas compte.
Puis justement, en parlant des grands médias, une petite question de curiosité. Il y a quelques mois, il y a un film grand public, style spectacle hollywoodien, qui met en scène la bataille de Seattle. Alors, je me demandais l'analyse sur ce film-là. Est-ce que c'est plutôt un exercice de mémoire collective intéressante ou une genre de récupération de l'industrie du divertissement qui fait que ça, comme le reste, devient juste un phénomène comme un autre qui se retrouve plus ou moins vidé de son sens?
Ouais, ben là c'est un peu mon opinion personnelle et un mélange de ce que j'ai pu lire là-dessus parce que j'ai vu le film et après j'ai su qu'il y avait un site web qui s'était créé en réaction à ce film-là qui s'appelle The Real Battle of Seattle et là ce sont les personnes qui l'ont vécu, qui ont vécu ces mobilisations-là, qui réagissaient au film, fait que j'ai un peu digéré tout ça. C'est bien intéressant, mais mon point de vue personnel quand je l'ai vu, c'est que c'est sûr que c'est un film qui est un peu gros, un peu caricatural, là, mais je trouvais quand même qu'au bout du compte, c'était quand même un hommage. Moi, je l'ai reçu quand même comme un hommage à toutes ces personnes-là qui se sont mobilisées. On comprenait bien dans le film, si quelqu'un qui le loue, on comprend quand même bien pourquoi ils se mobilisent, c'est quoi l'OMC, qu'il y avait la mobilisation à l'extérieur, qu'il y en avait à l'intérieur de l'événement aussi, ce qui est capital aussi pour comprendre. C'est ça qu'on a tenté aussi d'expliquer dans le numéro, que l'échec de Seattle pour l'OMC, c'est parce qu'à l'intérieur, les pays du Sud ont fait échouer les négociations. C'est pas juste parce que ça brassait dans la rue. C'est capital à comprendre. Donc, dans le film, on comprend quand même l'essentiel et on voit, c'est des militants, mais c'est des citoyens, on les voit se mobiliser, faire face à la répression. Le film montre quand même bien aussi ce que c'est, puis que cette répression-là était totalement exagérée, démesurée et complètement dingue. Donc, au moins, ça montre ça. Ceci dit, oui, c'est gros, puis il y a des grosses ficelles, puis il y a des affaires un peu fortes en café, puis ceux qui l'ont vécu, eux, ben, ils le digèrent pas bien parce que pour eux, c'est une vision beaucoup trop grossière, c'est sûr. Mais je l'ai trouvé un petit peu sévère pour ce qui est de condamner complètement l'effort. Je sais par contre qu'ils étaient déçus parce que ils ont été amenés à donner leur opinion sur le scénario puis à nourrir le processus de ce film-là, puis ils n'ont pas été suffisamment écoutés. Fait que ça, bon, c'est dommage, puis je peux pas rentrer dans ces histoires-là, mais moi, comme spectatrice, j'ai quand même trouvé que c'était malgré tout un hommage plus qu'une récupération.
Puis toujours dans l'introduction, une autre petite citation, vous écrivez « Notre espoir réside maintenant dans le fait que la crise globale actuelle donne raison aux altermondialistes qui n'ont cessé de décrier l'emprise démesurée de la finance et du commerce déréglementé sur la société. Le dogme néolibéral est discrédité plus que jamais auparavant. À nous, dans l'esprit de Seattle, de nous mobiliser et de saisir l'occasion pour qu'une transformation sociale radicale, si nécessaire à l'avenir de la Terre, à la réalisation des droits humains et à la reconquête de la pleine liberté humaine, s'impose enfin. » J'ai trouvé ça très joli. Mais alors, je me suis quand même demandé, dans mon cynisme récurrent, sur quoi se fondaient ces espoirs-là. Puis c'était quoi les espoirs à venir, là, très concrètement? Est-ce qu'il y a des espoirs de mobilisation? Il y a beaucoup de gens qui parlent de 2010. Il y a quand même le G8, des grosses mobilisations face aux Jeux olympiques. Est-ce que c'est sur ces pistes-là que se fondent ces espoirs-là ou vers où?
Non. Pour moi, l'espoir comme tel, j'ai envie de te répondre, nous vaincrons. Mais l'espoir, on est à un moment intéressant, puis il faut s'en rendre compte malgré toutes les difficultés, peu importe où on milite, c'est difficile. Mais il faut vraiment se rendre compte qu'il y a quelque chose qui a changé. C'est qu'avant, si tu veux, dans l'apogée du néolibéralisme, ils avaient le bénéfice du doute. Ils faisaient croire à tout le monde, on va créer de la richesse, on va entraîner la croissance, puis ça va se redistribuer comme par miracle. Et cette croyance-là, qui est fausse, puis après, dans les faits, ça s'est vérifié que non, il n'y a pas de redistribution, il y a plutôt une énorme concentration de la richesse, puis un processus d'accumulation, mais qui conduit pas du tout à une redistribution juste, puis à la résolution des problèmes d'inégalité ou aux problèmes environnementaux et tout ça. Ça, c'est vraiment démoli maintenant, alors qu'il y a 10 ans, ils avaient le bénéfice du doute au niveau, si on veut, de l'opinion publique. Là, ils l'ont pu. Et la crise qui vient de se produire, la crise financière, ben là, ça, c'est l'apothéose quand même. On se retrouve avec, par exemple, un paysan chinois qui subit une crise financière qui origine aux États-Unis et qui vient d'un excès de la folie des financiers de ce monde, dans lequel ce paysan-là n'a rien à voir. Fait que là, on a une espèce de globalisation des excès de la finance que les altermondialistes essayaient d'expliquer avant, mais qui n'est jamais apparu avec autant d'éclat malgré les crises en Argentine puis tout ce qui a pu se produire, mais tu sais, c'était pas planétaire comme la situation actuelle. Donc c'est dans ce sens-là, pour moi, qu'il y a un espoir. C'est là, ils sont vraiment discrédités et leur système est indéfendable. Donc c'est à nous d'en profiter. Là, on rentre dans la difficulté de l'affaire qu'on a déjà mentionné tantôt. C'est-à-dire, ce qui est triste, c'est qu'on a du mal, nous, à profiter de la crise, toutes les personnes qui se situent à gauche sur l'échiquier. Pourquoi? Je suis pas une experte en mobilisation, puis c'est sûr qu'il va y avoir des mobilisations, comme on disait tantôt, au OMC, le sommet de Copenhague, ensuite les Olympiques, le G20, ça va continuer, mais tu as raison, effectivement, de douter de la capacité que nous on profite de la crise. Là, c'est vrai que moi aussi je suis plus incertaine, mais tout ce que je sais, c'est qu'on a une carte dans notre jeu qu'on n'avait pas avant. Fait qu'il faut comme au moins l'admettre, parce que souvent il y a des gens qui s'en rendent même pas compte. Dans les mouvements dont je suis proche, entre autres les gens qui travaillent sur la question des paradis fiscaux, par exemple, ben ça fait des années qu'on en parle, mais là, tout d'un coup, on a l'impression qu'enfin, il y a une brèche qui est en train de se créer et que le discours qui a été porté, les analyses, le fait, les gens qui disaient les paradis fiscaux, c'est indéfendable, ça prive tous nos pays de ressources importantes pour, entre autres, avoir des programmes sociaux, des services publics et tout ça. Ben là, on a une brèche, tu vois. Fait que ça, c'est mon espoir à moi. C'est qu'il faut garder une attitude persévérante, une attitude positive. Faut les voir, les brèches, faut les nommer. Puis c'est en le faisant qu'on va attirer des gens à nous aussi qui vont se rendre compte que, hey, go, on y va et on continue. Mais je suis d'accord avec toi que c'est quand même, c'est vraiment difficile. Je pense pas non plus que dans nos pays, on va revoir justement c'est plus possible aujourd'hui de faire des actions comme ils ont fait à Seattle puis d'avoir un impact comme ça, d'après moi, à cause des dispositifs de répression qui sont mis en place. Puis il y a un super bon article là-dessus de Francis Dupuy-Déry dans la revue qui explique vraiment bien que, d'après lui d'ailleurs, c'est même pas septembre 2001, c'était avant que c'était déjà en train de se mettre en place cette vision répressive là. Fait que j'ai pas de recette miracle, mais tout ce que je sais, c'est qu'il faut pas lâcher.
Puis justement, en fait, sur ce dernier sujet-là, pour prendre un peu d'avance, je pense qu'il y a un prochain numéro qui s'en vient en 2010 sur la désobéissance civile. Ouais. Alors, ben, peut-être en définissant un petit peu la désobéissance civile, t'en parlais tantôt, c'est quand même une pratique qui s'expose à une répression, répression ayant toutes sortes de pouvant s'exprimer de plein de façons. À Montréal, c'est d'étiquettes, puis ailleurs, c'est des balles. Mm-hmm. Mais comment, face à un discours sécuritaire qui est de plus en plus fort, qui construit un espèce de... autour de la construction du concept de sécurité nationale au Canada, qui est de plus en plus impressionnant, donc battons-nous contre les méchants terroristes, protégeons la population au nom de la sécurité nationale, donc toute expression d'opposition politique devient synonyme de menace pour l'ensemble de la population. Alors ça rend assez difficile l'expression de la dissidence dans ce temps-là quand même. Donc comment est-ce que tu vois la réappropriation des actes de désobéissance civile?
Ouais. Là, on n'a pas encore fait ce dossier-là, mais la raison pour laquelle on veut continuer, ça va vraiment être dans la continuité du dossier sur Seattle. Et ça vient aussi de ma vie à moi comme militante, pas juste comme rédactrice à relations. C'est le fait que les pratiques d'action directe ou de désobéissance civile, on en a besoin quand la démocratie fonctionne plus, finalement. Quand toutes les autres voies sont essayés, style dans notre pays, par exemple, les pétitions, les campagnes de pression, les manifestations, les formes classiques de contestation produisent souvent peu d'effets et les élus se permettent d'ignorer ces choses-là facilement. C'est comme ça qu'on en arrive à penser, puis on est quand même nombreux dans le mouvement social, incluant ceux qui en ont jamais fait de désobéissance civile, qu'il va falloir franchir ce cap-là. Puis paradoxalement, dans une situation qui est plus répressive qu'avant, mais quelque part, il va falloir faire un pas parce que la démocratie est vraiment de plus en plus fictive. Et donc, il va falloir s'y former et le faire un peu dans un esprit quasiment à la Gandhi. Là. Mais pour arriver à quelque chose qui aurait une force quelconque, ça nous prend vraiment des bons... des leaders, des personnes qui vont nous... qui encadreraient les gens à arriver à des formes de contestation comme ça, qui sont difficiles à vivre. Alors, pour l'instant, bon, je sais pas trop, on n'a pas exploré le sujet à la revue encore, mais on a des personnes à relation qui ont vécu qui ont fait de la désobéissance civile, qui ont payé pour, etc. Ça va être super intéressant aussi de réfléchir à ça. Mais disons que c'est pour ça qu'on veut l'aborder. C'est une perspective, qui pour nous est dans un horizon réel, que t'as pas le choix. La désobéissance civile, dans les définitions que j'ai pu en lire aussi, c'est ça, hein, c'est le moyen que tu emploies quand les autres ont échoué. Puis Seattle, d'ailleurs, c'était ça aussi, hein. C'était plein d'organismes qui avaient utilisé toutes les autres voies pour se faire entendre de leur gouvernement et dire ce qu'ils avaient à dire au sujet des négociations commerciales, et ils étaient pas entendus. Et c'est pour ça, puis ça je le répète parce que pour toi puis moi c'est peut-être clair, mais pour la population en général, c'est vu comme des formes quand même très radicales, la gang de Hurluberlu qui s'en vont faire des blocages puis qui se font arrêter, puis ça sert à quoi, tu sais? Mais ça sert parce que les autres outils démocratiques qu'on utilise tous nous sont déniés finalement. Fait que c'est dans ce sens-là qu'on veut poursuivre dans cette veine-là en tant que revue pour explorer le sujet, mais en tant que militant aussi dans les, si vous voulez, le cercle qui nous entoure de personnes, c'est des questions qui sont de plus en plus posées.
Alors, si on veut se procurer la revue ou...
La revue, elle est en vente dans tous les bons kiosques, toutes les grands magasins, là, les Renaud-Brie, les maisons de la presse, et vous pouvez aussi la commander directement à Relations. On a évidemment un site web, www.revuerelations.qc.ca. Puis on produit 8 numéros dans l'année, alors... quand on lit Relations, c'est non seulement là évidemment pour obtenir des analyses d'un autre genre que ce qui nous est servi dans les médias en général, puis ben la soutenir, c'est faire en sorte qu'on puisse continuer à faire ce travail-là, puis franchir un jour peut-être le cap de nos 100 ans.
Et puis aussi les soirées Relations sur certains sujets qui sont aussi des occasions de mobiliser, faire connaître des sujets. Ouais. Sur le même site web, on peut avoir l'information?
Les soirées sont davantage organisées par le Centre Justice et Foi qui publie Relations. Pour ça, c'est mieux d'aller au cjf.qc.ca. Mais effectivement, elles existent depuis 30 ans, les soirées Relations à peu près, puis elles ont couvert une panoplie de sujets. Et c'est toujours l'occasion pour nous d'aller compléter une thématique qui a été abordée dans la revue. Souvent, une ou deux fois par année, on fait vraiment une soirée qui est en lien direct avec un dossier. La prochaine va être au mois de janvier sur un sujet complètement différent qui va être la beauté du monde. Alors, on va fuir un petit peu le côté de la lutte et du côté moins beau, justement, de la société. Mais on va se donner un petit répit au mois de janvier pour parler de la beauté du monde.
Mais merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je pense que ça ouvrait bien le sujet des 10 ans de Seattle. Alors, on va continuer à en parler.
Ce qui est important, c'est de surveiller sur Internet. Hein, au moment de la ministérielle de l'OMC, il y a des sites qui, souvent, si on cherche mobilisation contre l'OMC, anti-OMC.org, pour suivre un peu dans les médias alternatifs ce qui ne nous sera pas raconté dans les médias officiels sur les mobilisations là-bas, que moi, en tout cas, je vais surveiller de près de ma petite sphère à Montréal.